Les jeunes de la région Hauts-de-France lisent moins, environ un jeune sur cinq selon le Centre National du Livre, et c'est pour cette raison que des événements littéraires sont organisés dans la région, comme le Livrodrome à Saint-Just-en-Chaussée, dans l'Oise. Cet événement invite le public à participer à près de 20 attractions ludiques, puis à repartir avec des livres grâce au chèque lire offert. Nous vous faisons découvrir les stands.
Je suis Louis Clèche, je suis artiste-auteur, et dans mon travail artistique je fais plein de choses, de l'écriture, du dessin, de l'installation. Et là, je suis là pour présenter un jeu de dessin qui s'appelle Scritch.
Donc, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce jeu-là ?
Oui, c'est un jeu de dessin avec des thèmes de dessin au choix qui se combinent à des contraintes de dessin pour rendre les choses plus compliquées et plus amusantes. Et il y a un système de comptage de points qui arrive ensuite, qui est un système complètement arbitraire et qu'on ne peut pas anticiper, qui met tout le monde au même niveau. En fait, qu'on sache bien dessiner ou qu'on croit, qu'on pense savoir mal dessiner, et bien tout le monde est au même niveau parce que les critères du type vous avez utilisé un stylo vert ou vous avez mis des cheveux sur la tête de votre personnage vous font gagner des points dans une partie et perdre des points dans une autre partie. La personne qui a ensuite le plus de points gagne tous les dessins de la partie.
Et donc c'est important pour vous de mettre tout le monde un peu sur un pied d'égalité ?
Exactement, c'est l'idée de faire passer à tout le monde un bon moment à dessiner plutôt que de complexer les gens à devoir reproduire quelque chose qu'il faut essayer de deviner.
Et pour l'instant, ça se passe comment cet atelier ?
C'est hyper intense, il y a beaucoup de monde qui veut jouer, qui se prend au jeu et qui attend jouer, ça n'arrête pas depuis ce matin.
L'association Paradigme qui est basée à Clermont et on a un atelier d'imprimerie au Moulin de Saint-Félix à Saint-Félix.
Et donc quel est votre atelier aujourd'hui au Livrodrome ?
Alors notre atelier au Livrodrome c'est Crétonzine, donc en gros nous on est actifs dans la micro-édition, on fait plein de petites éditions avec plein d'artistes différents et on agit autour de l'artisanat du livre. Donc aujourd'hui on va faire de la sérigraphie, on va avec l'aide d'Anaïs Urbain, qui est une copine qui est relieuse, on va mettre en page et relier un petit livre avec une couverture sérigraphiée et dedans il y aura un petit peu des réflexions sur la littérature jeunesse, etc. Donc on va laisser un peu libre les élèves pour qu'ils fassent un petit contenu sympa.
Et donc ils vont faire des collages
Collages, découpages, un peu de tampons, un peu d'écriture, un peu de dessin, d'illustration. Et à la fin, ils repartent normalement avec un petit objet livre, petit fanzine quoi. La sérigraphie, c'est une technique d'imprimerie qui utilise un peu le système du pochoir avec un écran. Donc là, on fait un système un petit peu rigolo avec du découpage papier. Donc il n'y a pas trop de préparation en amont. Ça permet de faire un truc un peu graphique assez rapidement. Voilà. C'est un peu un atelier que j'ai développé dans le milieu scolaire et ça marche bien, donc je me suis dit que c'était approprié au Livrodrome.
Des activités plus sportives sont organisées autour du livre, comme le bookball.
Je m'appelle Virgile Lefebvre et je suis le responsable du secteur jeunesse de la commune de Saint-Jean-en-Chaussée.
Et donc aujourd'hui vous tenez un atelier, est-ce que vous pouvez m'en dire plus ?
Alors c'est un atelier qui s'appelle le bookball, donc c'est un lien entre la littérature et le football. Et le but étant pour les jeunes de leur faire découvrir le foot autrement, avec des nouvelles règles.
C'est-à-dire de nouvelles règles, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Bah, déjà la première étape c'est qu'ils doivent pour s'inscrire, ils doivent déjà aller passer à la librairie et pour trouver un livre qui leur convient pour pouvoir s'inscrire. Après de là, par 10, ils participent au match, deux équipes de 5. Et les règles peuvent être, donc il y a une règle qui est tirée au sort et ça peut être le ralenti. Ça veut dire que tout se joue à 2 km/h, selon l'expression, tout en arrière, donc que des déplacements en marche arrière. Il y a aussi le but, le thème la main de Dieu, où un but marqué de la main vaut 2 points. Il y a l'intégrale, où là on a le droit de jouer avec les mains, les pieds, la tête, les genoux, les coudes, tout ce qu'on veut. Entre autres, il y a une vingtaine de règles comme ça, et tout est fait par tirage au sort. Il y a par exemple la mort subite, un joueur qui marque sort du terrain. Et ce matin, on a eu la chance d'avoir une équipe qui jouait à 1 contre 5.
Donc c'est un petit peu pour mettre peut-être les joueurs sur un pied d'égalité, toutes ces règles un peu inédites qu'on ne voit pas dans le foot traditionnel.
En fait, ça part d'un livre qui a été écrit il y a quelques années qui s'appelle Tatane. Et en fait, c'était l'écrivain avait voulu faire découvrir par son écriture des joueurs de football connus et la particularité liée aux joueurs de football. Notamment La main de Dieu qui est repris de ce livre-là, qui fait référence à Maradona avec son but en Coupe du Monde.
Et pour l'instant, ça se passe comment ? Vous avez du monde ?
C'est la folie depuis ce matin, mais vous doutez bien qu'avec des collégiens fans de foot, dès qu'on a vu football, ils se sont dit on va y aller.
Alors aujourd'hui sur le Livrodrome, ce sont des salles de cinéma où en fait au lieu de regarder des films, on va vous lire des extraits de livres en lien avec les...
Où il y a eu des adaptations.
Voilà, des adaptations de cinéma.
Alors là, on a des livres pour les ados, on va dire. Donc moi, c'est Le Comte de Monte Cristo, Divergente et Charlie et la chocolaterie. Donc je pense que c'est des livres qui parlent aux ados et puis qui vont leur donner envie de lire.
Est-ce que vous pouvez nous lire un extrait d'un livre, s'il vous plaît ?
Monsieur Wonka. Cette gomme poursuivit Monsieur Wonka est la dernière, la plus importante, la plus fascinante de mes inventions. C'est un vrai repas. Cette minuscule bande de gomme que vous voyez là est à elle seule un véritable dîner composé de trois plats.
Que racontez-vous là ? C'est insensé, dit l'un des pères.
Cher monsieur, s'écria Monsieur Wonka, cette gomme, une fois mise en vente dans les boutiques, changera la face du monde. Ce sera la fin des plats cuisinés. Plus de marché à faire, plus de boucherie, plus d'épicerie, plus de couteaux, plus de fourchettes, plus d'assiettes, plus de vaisselle à laver, plus de détritus, plus de pagaille. Rien qu'une petite barre magique de chewing-gum Wonka. Elle remplacera votre petit déjeuner, votre déjeuner, votre souper. Ce morceau de gomme que vous voyez là représente justement une soupe à la tomate, un rosbif et une tarte aux myrtilles. Mais le choix est grand. Vous trouverez presque tout ce qui vous plaira.
Soupe à la tomate, rosbif, tarte aux myrtilles ? Que voulez-vous dire par là ? Demanda Violette, beau regard.
Il suffit de mâcher cette gomme, dit Monsieur Wonka, pour avoir exactement l'impression de manger ce menu. C'est absolument stupéfiant. Vous croyez avaler réellement votre nourriture, mais vous la sentez qui descend jusque dans votre estomac. Et vous mangez avec appétit.
Mais qu'en pensent les participants ? Ils nous racontent leur expérience.
Alors, est-ce que vous avez déjà choisi un petit peu les livres que vous voulez prendre ?
Non, on était en train de regarder. Pareil.
Et il y en a un qui vous fait particulièrement ?
J'aime bien la couverture.
Ouais, c'est un truc qui t'attire l'œil direct, quoi.
Oui.
C'est important pour toi ?
Oui.
Et vous lisez quoi, d'habitude, comme livre ?
Moi, je lis beaucoup... Je sais plus le nom.
Romance ?
Oui, mais je sais plus le nom exact... Des romans d'amour.
Et qu'est-ce qui vous plaît là-dedans ?
Ben moi, c'est passionnant à lire et moi, j'aime bien l'histoire. Donc moi, quand je lis, je suis dans ma bulle. Donc
Ouais, tout de suite, ça vous transporte dans l'histoire. Et vous lisez autre chose que de la romance, de la young adulte, tout ça ?
Des BD.
Quel genre de BD ?
Mortel Adèle.
Je m'appelle Evelina.
Et du coup, qu'est-ce que tu fais ici ? Comment tu te sens ?
Je me sens bien. Hein. Je trouve que c'est bien organisé. C'est intéressant. Il y a beaucoup de choses à faire et il y a des choses qu'on n'a jamais faites en fait.
C'est-à-dire ?
Par exemple, le book club. Il y a des livres que tu peux écouter.
Le Livrodrome est organisé depuis 3 ans par Gauthier Morax, le directeur de cet événement. Le Livrodrome, un parc d'attractions littéraires, un reportage de Juliette Carlier pour Radio Graphite.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Vous écoutez Radio Campus 106,6 FM www.campuslille.com.
paysages et découvertes. Je suis digne et je te respecte, mon père.
reste dans la norme. Endommer la banalité, obligé à gober les normes. Dans la culpabilité, la journée trop inquiète à Babylone. Sont si puissantes qu'elles n'aiment pas les personnes qui sont les victimes. Si je me plains, on m'incrimine. Je ne suis pas un martyr et j'en ai rien à foutre. Dois faire ma vie dans le magazine, écoute mes rimes. Je ne suis pas un poète qui maudit par l'ennui. La folie m'est à ma philosophie, seulement évacuer ma vie. Cette sensation d'apathie, passer mon temps à attendre. J'en serais certain que la réalité donne un combat plus tôt pour le futur. Je n'attends rien de toi, pas le pessimisme. Mais je ne suivrai plus la loi. Vivre pour remplir les caisses de l'État. Mon destin, je ne passe pas à pas peur de l'avenir. J'attends le pire, déjà dans la ligne de mire. Mais l'angoisse du futur n'est plus qu'un souvenir. Quand t'accules la rage de mon cerveau, les tâches. Vous ne me rattraperez plus jamais, je me détache. Non, vous ne me rattraperez plus jamais, je me détache. Et quand t'accules la rage de mon cerveau, les tâches. Vous ne me rattraperez plus si jamais je me détache. Non, si jamais je me détache. Non, vous n'avez pas de temps.
Lundi 30 juin, une trentaine de personnes des associations, syndicats et formations politiques se sont rassemblées devant la permanence de la députée arageoise Pauline Levasseur, 7 boulevard Schumann à Arras, en réaction à un appel du collectif national contre la loi Duplomb. Une loi examinée en commission mixte paritaire à partir du 30 juin visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur. Elle est proposée par Laurent Duplomb, sénateur Les Républicains et ancien président FNSEA de la Chambre d'agriculture de Haute-Loire. Elle prévoit notamment des simplifications administratives et un soutien à la compétitivité agricole. Ses opposants dénoncent notamment l'ignorance des causes structurelles de la crise agricole, l'impact environnemental et de santé publique que pourrait induire ou accentuer la loi. Au micro, Jean-Michel Sauvage, paysan à Courcelles-le-Comte et membre de la Confédération paysanne. Aujourd'hui, rassemblement devant du coup la permanence de la suppléante de Madame Agnès Pannier-Runacher. Oui, c'est vrai que maintenant elle est députée du coup, depuis que Agnès Pannier-Runacher est devenue du coup ministre de la transition écologique, de la prévention des risques, de l'énergie. C'est symbolique d'être là pour parler de la loi Duplomb.
On est venu pour la solliciter. Bon, apparemment elle n'est pas là ou elle est partie déjà, quoi. Mais la question de fond, est-ce que c'est les politiques qui font la politique, quoi, hein ? Nous, il nous semble que le vrai ministère de l'agriculture et de la transition écologique, hein, j'associe les deux, parce que l'agriculture est quand même très questionnée sur ses pratiques environnementales, quoi, hein, et sa volonté de pouvoir changer, quoi, hein. Donc on s'aperçoit que le ministère, c'est pas les politiques, mais c'est la FNSEA, quoi, hein, qui fait l'appui et le beau temps, qui décide de ce qu'il faut mettre en place, quoi. Hein. Donc, est-ce qu'on est au bon lieu ? On peut se poser la question, quoi.
Aujourd'hui, il y a plusieurs enjeux autour de cette loi du plomb. Il y a aussi quelques tensions. L'une d'elles, c'est le fait qu'elle ne soit pas débattue à l'Assemblée nationale, qu'elle passe directement en commission mixte paritaire.
Oui, alors, un débat, c'est toujours intéressant, parce que ça repose les questions qui sont posées déjà depuis... Enfin, il n'y a rien de nouveau, quoi. Hein. Sauf qu'aujourd'hui, ce qui est nouveau, c'est qu'on veut faire marche arrière, quoi. Parce qu'on avançait progressivement dans une pratique qui tenait compte d'un ensemble de choses et pas seulement de la problématique agricole, quoi. Nous, il nous semble que sur le terrain, on a suffisamment de recul et de pratique de gens qui témoignent toujours qu'on peut faire différemment, quoi.
D'une agriculture alternative ?
Ben, pas alternative, une agriculture qui répond aux enjeux de société, quoi. Et que, alors on ne peut pas obliger les gens à changer d'orientation, mais si on les aidait de façon plus conséquente, ceux qui veulent bifurquer, hein, moi j'ai bifurqué une époque, hein, donc s'il y avait des aides plus conséquentes pour ces gens-là, le mouvement serait plus fort, quoi. Hein, et donc il faut encourager les gens qui veulent, quoi. Donc il y a des moyens. L'Europe donne beaucoup, beaucoup d'argent à l'agriculture, quoi. Hein. On avancera que si les citoyens se mettent à aussi réclamer, parce que c'est des problèmes aussi de biodiversité, des problèmes de santé, des problèmes, enfin je veux dire, ça touche la société dans sa globalité, quoi.
C'est un leurre aujourd'hui de faire croire aux jeunes agriculteurs qui viennent de s'installer que leurs conditions économiques vont évoluer dans le bon sens, parce qu'il y aura plus de compétitivité, une certaine souveraineté alimentaire en réutilisant ces pesticides, en faisant passer cette loi.
Bah moi je suis un vieux paysan, hein, j'ai 68 ans. Ce discours on nous l'a tenu depuis tout le temps, quoi. On est passé de 1,6 million quand je me suis installé en 83. À 400 000 aujourd'hui et à 200 000 demain. Donc, moi, depuis toujours, j'entends ce discours, la compétitivité. En fait, effectivement, il y a un besoin de revenus pour les paysans, quoi. Hein. Il y a beaucoup de paysans qui sont en difficulté. Hein. Il y a beaucoup de paysans qui sont revenus et aux revenus très bas. Et il y a aussi les agriculteurs qui sont des machines de guerre, quoi. Hein. Machines de guerre parce qu'ils captent l'argent de l'Europe, parce que la fiscalité est faite pour les gens qui gagnent de l'argent et pas pour les petits paysans, quoi. Hein. Enfin, je veux dire, la matière grise des chambres de gestion travaille pour optimiser la contribution sociale, c'est-à-dire en payer le moins possible. Donc, plus tu gagnes d'argent et moins tu en redonnes à la société et plus tu as la capacité d'avaler ton voisin, quoi. Hein. Donc, les jeunes qui sont aujourd'hui dans les écoles agricoles, on le fait miroiter que voilà, la technologie va répondre à tout, quoi. Elle répond surtout au fait de faire disparaître les paysans. Ça, c'est un fait, c'est incontestable, quoi.
Au-delà de ça, c'est aussi une loi qui pose un vrai problème de santé publique avec le retour de certains pesticides, que ce soit à la fois pour l'agriculteur qui va du coup être en contact avec ces pesticides, mais aussi le consommateur après et l'environnement.
Oui, alors, il faut être juste, il n'y a pas que les paysans qui utilisent des pesticides, hein. Les services publics utilisent des pesticides, mais ça a voulu, hein. Dans les villages, c'est interdit, dans les cimetières, c'est interdit. Hein. C'est un vrai progrès, quoi. Hein. Quand on voit que quand on parle de pesticides et qu'on ne parle pas d'agriculture, les services publics, les cimetières aujourd'hui, qui étaient traités avec des pesticides, qui ne le sont plus, quoi. Hein. Donc, on voit que c'est quand même l'agriculture qui bloque. Hein. Toute personne sensée sait qu'on ne peut pas continuer comme ça, quoi. Donc il y a des progrès sur un certain nombre d'endroits, mais nous qui habitons la campagne, au village, il y a des moments où on est honteux de ce qui se passe, quoi. Hein. Moi je pense qu'on devrait faire un géant. Hein, ils font des géants, des histoires. On devrait se faire un géant en bidon. Moi, il y a quelques temps, 10 ans, 15 ans, j'avais fait un géant à terre en fête, quoi, hein, qui faisait 3 mètres 50 de haut, avec des bidons, avec du rouge partout qui coulait. Voilà, ça, c'est la réalité, quoi. Hein. Il faut mettre de l'image. Il faut mettre de l'image et il faut afficher partout où c'est possible les pesticides tuent, quoi. Il faut qu'on se donne les moyens de montrer tous les jours. Voilà, il faut le répéter. Et il faut rendre ça visible.
On continue avec d'autres interventions recueillies lors du rassemblement organisé contre la loi Duplomb. Devant la permanence de la députée arrageoise Pauline Levasseur, 7 boulevard Schumann à Arras, le 30 juin dernier. Yannick Kremer, représentant de la France Insoumise pour l'occasion.
Moi, je suis là aujourd'hui pour venir dénoncer une loi qui me semble être un grand bond en arrière, dans la mesure où c'était des mesures qui avaient été prises pour justement protéger à la fois et les agriculteurs et la population. Et aujourd'hui, patatras, on revient en arrière, on réintroduit un certain nombre de pesticides qui étaient interdits. On voit bien qu'il y a des projets qui sont extrêmement controversés, notamment les projets de méga-bassines. Là, cette fois-ci, on les avalise et on les permet de manière quasiment autoritaire. Enfin, pour moi, c'est une manière de plus de dire que l'écologie, c'est vraiment la dernière roue du carrosse du gouvernement Bayrou et de l'ensemble des gouvernements comportés président Macron. Donc il nous semblait important d'être là aujourd'hui pour le rappeler à madame la députée que et sur cette loi et comme sur beaucoup d'autres, on est contre et on s'y oppose.
Alors ce qu'on vous oppose aussi, c'est que ce soit un moyen de lever certaines contraintes sur le métier d'agriculteur.
Je pense qu'il y avait énormément de manières de faire et d'agir autrement. Très concrètement, il y a des façons de pouvoir aider les agriculteurs de ce pays de manière différente. Là, j'ai surtout le sentiment que ceux qu'on aide, ce sont les lobbies des pesticides et que c'est surtout eux qui vont être les grands gagnants. Les agriculteurs, eux, récolteront des cancers, la population également. Je pense qu'il y avait mille et une autres manières de faire pour pouvoir les aider et les accompagner.
Est-ce que c'est pas un cadeau aussi à l'agro-industrie avec plus de souplesse sur les lois, notamment sur les bâtiments d'élevage ?
D'une manière générale, oui, on voit bien dans quel sens souffle le vent macroniste, c'est-à-dire que dans une certaine mesure, c'est toujours plus d'accompagnement et de cadeaux pour les plus riches, pour les plus puissants, au détriment de l'ensemble de la population. Et encore une fois, effectivement, cette loi va permettre d'avoir des méga-usines, de permettre des élevages de très grande capacité. Et c'est très clairement le contre-projet agricole qu'il nous faut pour ce pays et pour le 21e siècle.
Une autre problématique de cette loi, c'est qu'elle va passer directement en commission mixte paritaire et qu'elle n'est pas débattue à l'Assemblée.
Pour une raison assez rocambolesque, hein, encore une fois. Manifestement, les députés écologistes et LFI auraient déposé trop d'amendements. Donc, encore une fois, dans une certaine mesure, quand on est dans le jeu du processus démocratique, on nous rétorque que finalement, on nous fait de l'obstruction et donc, du coup, on passe par-dessus les lois. Ça devient une méthode un peu classique, hein, encore une fois. Hein, les 49-3 répétitions, les manières de procéder de manière autoritaire, c'est très clairement une forme de marque de fabrique aujourd'hui. Donc, oui, demain, elle rentre en commission mixte paritaire. C'est la raison pour laquelle il me semblait vraiment important d'être là aujourd'hui pour leur rappeler leurs bons souvenirs et encore une fois pour leur dire que et les députés dans l'Assemblée et les citoyens dans la rue, nous sommes opposés à ce projet.
Est-ce que c'est pas une façon aussi de mettre la pression sur les jeunes agriculteurs qui viendraient de débuter le métier en leur faisant peut-être miroiter une solution pour l'avenir, que ce soit au niveau d'une espèce de souveraineté alimentaire ou d'un alignement sur les lois face aux autres pays européens et donc pour créer une compétitivité.
Très concrètement, on voit bien que c'est une loi qui a été taillée sur mesure pour permettre l'entrée dans le Mercosur. Hein. Mercosur dont on criait à corps et à cri qu'il n'était pas question qu'on y entre. Et manifestement, il ne semble pas que ça soit exactement le même son de cloche qu'on entend au niveau européen. Donc oui, de toute manière, oui, pour toutes les personnes qui souhaitent rentrer dans ce métier, mais comme pour, je pense, l'ensemble de la jeunesse de ce pays et l'ensemble des salariés et des travailleurs de ce pays, d'une manière générale, c'est une manière de leur mettre une pression supplémentaire. Une pression sur la production pour les paysans, une pression sur les prix pour les consommateurs, et dans une certaine mesure, on se retrouve tous pris au piège par ce genre de loi Duplomb et voilà.
Valérie, citoyenne.
Alors moi je suis venue en tant que citoyenne parce que je suis catastrophée par cette loi Duplomb qui, si elle est votée, va nuire grandement à l'environnement. C'est un recul qui me paraît phénoménal et au service de l'agro-industrie, en fait de la FNSEA. Alors, c'est injuste par rapport aux paysans. Et puis, c'est injuste aussi par rapport à la biodiversité. Ça nous concerne tous. Donc, il faut se manifester. Il faut vraiment agir pour que les choses aillent du bon côté. Il faut écouter davantage le citoyen. J'ai lu quelque part qu'il y avait 75-80% des gens qui étaient contre cette loi du plomb. Et le passage en force est inacceptable. Et je sais qu'il y a des personnes qui avaient rendez-vous avec la députée Levasseur, mais ça a été annulé au dernier moment. On ne comprend pas. C'est des choses qui sont capitales. J'ai cru entendre qu'elle était pour la loi du plomb. Je pense on m'a dit qu'elle avait rechangé d'avis. J'espère qu'elle a changé d'avis, parce que sinon c'est vraiment dramatique. Elle remplace une ministre de l'écologie. On ne comprend pas. Voilà.
C'est ça qui est affirmé aussi par les opposants, c'est que ça va donner un vrai avenir. Ça met une sorte de pression peut-être sur les jeunes agriculteurs aussi, qui pensent que c'est un pas nécessaire pour l'avenir de l'agriculture et de l'alimentation française.
Je pense que c'est encore une fois un recul. La France devait montrer l'exemple, et les jeunes agriculteurs, au contraire, ils seront victimes de tout ça. Il faut réfléchir à changer le système avec tous les agriculteurs et ne pas aller toujours vers plus d'agro-industrie au bénéfice d'une minorité. Il faut justement qu'il y ait plus d'agriculteurs qui s'installent, mais encore une fois, il faut respecter les plus petites structures qui respectent la biodiversité. C'est notre capital, d'autant plus avec le changement climatique, c'est notre avenir qui se joue, l'avenir des jeunes.
Parce qu'il existe justement des modèles d'agriculture alternatifs qui fonctionnent.
Tout à fait, oui. Alors je ne les connais pas forcément, parce que comme je vous dis, je suis citoyenne lambda, mais on n'en parle pas suffisamment, c'est sûr.
Ce qui vous dérange aussi, c'est justement ce coup de force, le fait qu'elle passe directement en commission mixte paritaire et pas à l'Assemblée ?
Oui, entre autres, oui, il n'y a pas que ça qui me dérange, mais oui, ça c'est vraiment inacceptable, oui.
C'était un retour sur le rassemblement contre la loi du plomb organisé lundi 30 juin devant la permanence de la députée arageoise Pauline Levasseur, 7 boulevard Schumann à Arras. Un rassemblement en réaction à un appel du collectif national contre la loi du plomb. Un reportage réalisé par Laura Becker pour Radio PFM.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
She walks around with a pink balloon, and if you try to take it from her, your rent will come too soon. She dreams about her pink balloon, carrying her higher and higher up to the moon. She ties it to her waist, if you're lucky, she might let it go for you and make a wish. First thing she wakes up, pours herself a cup. Before she's out the door, she stops to blow it up. Sometimes she carries it high, sometimes she carries it low. People point at her and say, there she goes. Danger. She don't worry about doom, and she don't give a damn what you think about a pink balloon. She walks around with a pink balloon, and if you try to take it from her, your end will come too soon. She walks around with a pink balloon.
Dans un petit village tout au nord du pays, là sous le gros nuage, je vis avec mamie. Ma mamie est bien bonne, oh, elle est bien gentille. Elle sent bon l'eau de Cologne et le tabac aussi. Notre petite maison est rouge et tout de briques, comme toutes les maisons à côté de la fabrique. Où y'a papy qui est mort, mamie elle a fait hic, en le trouvant ivre et mort sous la presse hydraulique. Sur la balançoire à côté du vieux être, du matin jusqu'au soir je fais des kilomètres. Et quand je suis pas là c'est que je suis à la fenêtre, que je guette la fille d'en face pour la voir apparaître. C'est qu'elle est bien jolie la voisine. Et je demande à mamie car ça me turlupine. Dis pourquoi, dis toujours, dis que je deviens tout rouge, comme les briques autour et que j'ai le zizi qui bouge. Mamie est bien bonne, oh, elle est bien gentille. Elle sent bon l'eau de Cologne et le tabac aussi. Mais quand je lui crie au secours, que je lui demande qu'est-ce qui se passe, elle me répond toujours t'es qu'un petit dégueulasse.
Après 6 ans de travaux de rénovation, l'hôtel de ville de Douai a récupéré son salon blanc. Cette pièce, destinée entre autres à la célébration des mariages, impressionne par la qualité de ses lambris ornementés et peints en blanc. Son haut plafond blanc, auquel sont suspendus 3 lustres majestueux, et des miroirs aux dimensions impressionnantes qui renforcent la luminosité exceptionnelle de cette salle, agrémentée de tentures jaune olive assorties au mobilier bois et velours. La dernière rénovation du Salon Blanc, datée de 1858, date à laquelle de nouvelles boiseries ont complété celles datant du XVIIIe siècle. Et si le chantier de rénovation a duré près de 6 ans, c'est que de nombreuses surprises attendaient les artisans mobilisés. Frédéric Chéreau, maire de Douai.
On dit enfin, oui, effectivement. On a attendu depuis 2019. Les premières études datent de 2005. Le chantier a commencé en 2019 avec un coup d'arrêt dû au Covid puis à l'abandon de la première entreprise. On a tout relancé, tout repensé, tout refinancé et aujourd'hui, ça y est, c'est fini. Et de quelle manière ? Mais en réalité, dans un bâtiment comme celui-là, c'est jamais fini. C'est-à-dire qu'il faut élargir à l'hôtel de ville dans son ensemble. Donc on a commencé la rénovation en 1990 Le Salon Blanc en est un des moments majeurs, après avoir fait les façades, les toitures, le beffroi, etc. Et il reste encore du travail demain. Maintenant que le Salon Blanc est terminé, peut-être qu'il faudra se pencher sur la salle gothique, sur la salle des fêtes. Et puis, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, tout recommencer, parce que c'est un éternel recommencement. Un bâtiment comme celui-ci, c'est un trésor, mais un trésor dont il faut prendre soin.
Sauf que ces travaux ont permis des connaissances qu'on n'avait pas, notamment sur le Salon Blanc.
On a redécouvert ce Salon Blanc. Au fond, il n'avait jamais été démonté depuis sa pose en 1855 à peu près. Donc ça fait plus de 150 ans, 170 ans pratiquement, que ce Salon Blanc est en l'état. Et en le démontant, on a eu des bonnes et des mauvaises surprises. On a découvert, par exemple, que sous le blanc, ça n'était pas que du bois. Pas toujours le même bois, pas toujours de la même époque. Le plafond n'était pas très bien arrimé, les charpentes avaient besoin d'être refaites, les encadrements de portes n'étaient pas très bien arrimés, etc. On a découvert du plomb. Voilà, donc on a mieux compris. Et aujourd'hui, le Salon Blanc n'est pas seulement repeint, restauré, il est dans sa structure beaucoup plus solide, beaucoup plus cohérent. Et tout ça maintenant est documenté, c'est-à-dire qu'on a toutes les pièces, tous les plans, tous les écrits. Donc pour les prochaines générations, ils sauront, ce qui n'était pas notre cas, ce que nous avons fait et comment entre 2019 et 2025.
Le coût total de l'investissement ?
Le coût total, c'est 2 millions d'euros. Ça a pratiquement doublé par rapport à l'estimation de départ. Il faut bien avoir en tête que c'est un coût qui va s'amortir sur au moins 100 ans et j'espère davantage.
Certains disaient, est-ce que c'est véritablement utile, voilà, que de rénover à un tel coût ce Salon Blanc ?
L'alternative, à un moment donné, c'était de le fermer et de ne plus l'utiliser. Nous avons fait le choix. Quand on s'est lancé, on n'avait pas forcément en tête ce coût total définitif. Mais une fois qu'on est au milieu du gué, bah, il faut finir, il faut traverser. Et c'est ce que nous avons fait. Là-dessus, on a quand même financé la moitié à peu près par nos financeurs, l'État et le département du Nord, que je remercie très sincèrement parce que sans eux, sans l'État et le département du Nord, on n'aurait pas pu lancer ce chantier.
Salon Blanc, c'est le salon des mariages. C'est un écrin pour ceux et celles qui viennent s'unir ici.
Bah, les mariages ont déménagé pendant quelques années ici, dans cette salle gothique, qui est très belle, mais au sens propre du terme, en termes de lumière, entre la salle gothique et le Salon Blanc, c'est le jour et la nuit. Hein. Voilà. Et le Salon Blanc, avec sa couleur, avec sa lumière, il est totalement adapté pour les mariages. Les premiers ont lieu dès cet après-midi. C'est moi qui les célébrerai, et puis ensuite, mes collègues prendront le relais dans les prochains jours. Et je pense que les mariés qui vont revenir seront très heureux de redécouvrir ces lieux. Puis évidemment, il n'y a pas que des mariages. Il y a beaucoup d'événements importants. Le déjeuner de Gaillan aura lieu ici. Il y aura des mises en valeur, je sais pas, d'associations, d'événements, etc. De ce salon, il sert à plein d'usages. Et il est de retour et nous allons l'utiliser.
Que de dire aux Douaisiens, ce patrimoine est le vôtre, c'est important ça.
Exactement. Je pense que les Douaisiens peuvent en être fiers. J'espère qu'ils et elles viendront le visiter. Et puis désormais, ce Salon Blanc est rouvert aux touristes, aux visiteurs. Et c'est tout un ensemble monumental dans cet hôtel de ville qui attire beaucoup de touristes, voilà, qui fait vivre le tourisme à Douai. C'est un lieu extraordinaire et un lieu dont nous avons le devoir de prendre soin.
Et enfin, la dernière question. C'est facile de travailler avec les monuments historiques ou tous ceux qui sont forcément partenaires sur une telle opération ?
L'architecte des bâtiments de France, les monuments historiques sont évidemment très regardants. Et ils ont raison, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi dans un lieu comme celui-là. On ne peut pas faire ça par-dessus la jambe, c'est un objet d'histoire. Mais nos partenaires nous ont toujours accompagnés, aidés à trouver des solutions, à avancer. Et je veux remercier aussi nos ingénieurs à l'interne, Sébastien Perriot, Maxence Rémoleux, Alexandre Davril, qui ont été vraiment des chefs d'orchestre remarquables sur ce projet, aux côtés de Vincent Brunel, architecte des monuments historiques, et de Madame Stievenard, architecte des bâtiments de France, et puis les entreprises. On n'imagine pas le nombre de petits soucis, de petites difficultés, de petites énigmes qu'on rencontre au quotidien en se demandant « mince, comment on va faire ?» et on se gratte le front. Et à chaque fois, les entreprises et nos ingénieurs ont trouvé des solutions, ont avancé, ont passé étape après étape pour aboutir à ce résultat.
Un long chantier de rénovation qui permettra aux touristes d'apprécier toute la diversité architecturale de l'hôtel de ville de Douai qui, en son sein, illustre toute la richesse historique de la cité des géants. Un trésor préservé par des artisans et ingénieurs aux compétences exceptionnelles. Alexandre Davril, chef de projet à la ville de Douai.
Il y a des gens qui sont formés pour ça. Il y a des bureaux d'études, il y a des ingénieurs, des bureaux d'études techniques qui ont travaillé sur le projet pour mettre en place toutes les solutions qui étaient nécessaires à la résolution des problèmes et pour pouvoir avancer sur le dossier. Et sans eux, de toute façon, le dossier ne peut pas se faire parce que c'est eux qui sont à la base de tout. À partir du moment où les problèmes sont trouvés, il faut solutionner.
Et c'est solutionné dans une architecture du 18e, solutionné avec les solutions actuelles, avec les méthodologies actuelles.
Les éléments que l'on voit aujourd'hui ici sur les murs, les éléments de décoration, les boiseries, le plafond, les lustres sont les mêmes que ceux qui ont été démontés au cours de la rénovation.
C'est ça, tout à fait, tout à fait. Tout a été tout a été déposé avec soin, emmené en atelier, restauré en atelier et tout est revenu il y a quelques mois. Donc on parle des lambris. Pour à peu près 50% des lambris, les lustres ont été déposés, les miroirs sont partis en atelier. Tout ce qui est mobilier a été restauré, donc ici sur place ou en atelier également par une entreprise douaisienne. Et voilà, mais c'est vrai que tout a été déposé. Au niveau des structures, les plafonds, eux, ont été tirés sur place, c'est-à-dire qu'ils ont été moulés sur place avant dépose. Les moules sont partis en atelier en région parisienne, ça a été tiré en atelier et c'est revenu, pareil, au cours du chantier, au fur et à mesure, l'acheminement du matériel.
Certains peuvent penser que c'est facile de démonter que de remonter quand on le dit comme ça.
Ouais.
Ça paraît simple, c'est juste un peu plus compliqué que ça.
C'est ça, c'est un travail d'orfèvre, un travail d'artiste. Hein. De toute façon, les entreprises du patrimoine qui ont œuvré sur le chantier étaient vraiment, avaient un savoir-faire qui est somme toute exceptionnel. Il ne faut pas se leurrer. Hein. Ce sont des artistes à part entière. Hein. La méthodologie, ça a été donc la charpente. Dans un premier temps, la charpente qui est phénoménale, qui est grandiose, mais qui ne se voit plus aujourd'hui parce qu'elle est cachée par les plafonds. Mais il faut savoir que, par exemple, les plâtriers, les staffeurs ont fait des relevés d'empreintes sur un plafond existant qui était en train de s'effondrer. Et de fait, on a l'impression d'avoir une simple rénovation, juste un coup de blanc. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, quand on est quand on a notre œil à ras du plafond, on s'aperçoit qu'il y a vraiment des petits défauts d'altimétrie et autres qui se perdent dans l'ensemble, mais en fait, ils ont seulement tiré sur ce qui est existant et reposé comme à l'identique. Donc c'est d'où le travail encore plus impressionnant au niveau de la finition.
C'est-à-dire que si l'on aujourd'hui regarde le Salon Blanc en 2025, on le retrouve tel qu'il était peut-être en 1980.
Presque, c'est presque ça. C'est presque ça. C'est-à-dire qu'on a vraiment, quand on a l'œil aguerri, qu'on a l'œil que ce soit sur les boiseries, sur les petites déformations et autres, on a l'impression qu'on pourrait presque dire qu'il n'y a qu'un coup de blanc qui a été mis.
Mais un coup de blanc n'aurait pas suffi parce que c'est on peut dire que le bâtiment était malade.
Alors, le bâtiment était malade, oui et non. En fait, il y a eu des découvertes suite à des infiltrations. Hein, l'eau est l'ennemi des bâtiments. Donc, il y a effectivement, comme la structure est en bois, il y a eu quelques découvertes. Et c'est ça qui a fait que le chantier a dû s'arrêter pendant quelques années. Parce qu'après, une dépose complète d'un plafond, c'est pas la même chose qu'un nettoyage, un lessivage, une reprise d'enduit et refaire un coup de blanc derrière, effectivement. Mais aujourd'hui, le bâtiment est traité, tout va bien. On peut dire que c'est une page qui se tourne pour la ville de Douai. Le Salon Blanc redémarre. Bah, ça fait partie de la même des Douaisiens. La population l'attendait. La fierté pour certaines familles de pouvoir marier leurs enfants ici, ça va être. C'est un cadeau, c'est grandiose. C'est une âme retrouvée. C'est une âme retrouvée.
Et ce qui est fabuleux dans cet hôtel de ville, c'est que quand on passe d'une salle à l'autre, que ce soit la salle des fêtes, que ce soit la salle gothique, le Salon Blanc, enfin, on est dans des univers mitoyens totalement différents.
Tout à fait, tout à fait. Et c'est ça qui fait aussi le charme et le cachet de l'hôtel de ville. On passe une porte et on se retrouve d'un Salon Blanc à une salle médiévale. On retrouve une salle un peu plus métallique avec la salle des fêtes. Tout est... C'est trois univers, trois salles, trois ambiances, c'est ça qui fait le cachet, le charme de l'hôtel de ville. Mais on tombe vite amoureux de la ville de Douai. Quand on y travaille, on est... les personnes, mais le patrimoine y est grandiose. Il y a parce qu'on parle de l'hôtel de ville, mais on a tous ces bâtiments en périphérie ou en cœur de ville qui ont une âme, qui sont du patrimoine classé et qui sont magnifiques. Moi, j'ai la chance de pouvoir être le chef de projet qui gère ce patrimoine. Et aujourd'hui, on tombe vraiment, je ne vais pas dire amoureux de la ville, mais on aurait du mal à s'en passer, en fait. C'est un peu comme ça que je vois les choses de mon côté.
Parce que c'est vrai que quand on ambule dans les rues de Douai, c'est un petit peu à l'image de l'hôtel de ville. On tombe d'une époque à l'autre, quoi.
C'est ça, tout à fait. Ben, c'est l'histoire. C'est tout simplement l'histoire qui veut ça. Douai a une histoire médiévale phénoménale. Les aléas de la vie, la guerre et autres qui ont fait des destructions, des reconstructions, des façades années 60. On peut tomber après, juste à côté, sur une façade du 18e. Puis après, on a encore une maison du 15e. C'est ça qui est assez impressionnant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on avait tout à l'heure le sous-préfet qui parlait de l'âme touristique et de faire revenir les gens. C'est une ville qui a vraiment le mérite d'être connu.
Et pour profiter du patrimoine douaisien et découvrir, entre autres, le salon blanc de l'hôtel de ville, mais aussi la salle médiévale ou encore le beffroi, rendez-vous sur douaisie-aglotourisme.com. La rénovation du salon blanc de l'hôtel de ville de Douai, un reportage de Hervé Dujardin pour Radioscape Sensé.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France, une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.
Allez, éteins ta télé, branche ta radio sur le 106,6 sur Radio Campus Lille.
Tous ces petits morceaux qu'on retrouve étalés dans les rayons de supermarché, à tous ces corps sans cou qui n'ont jamais appris à se tenir debout, être sorti de l'œuf sans avoir vu le jour, pour finir sous plastique en promotion du jour. Ils sont loin les plaisirs de la tendre basse-cour. Dans la gadoue pour passer au-dessus de la barrière, on faisait pas des millions avec quelques poulettes. Maintenant c'est par millions qu'on leur coupe la tête. On n'arrête pas le progrès quand on est bien payé. On fait des trucs pas nets avec des éprouvettes. Et un de ces quatre matins dans le flonnet sera déjà prête.
T'as qu'à voir le bazar.
La santé des poulets morts. À la santé des poulets morts. Bien sûr, on ne parle pas des gardiens de la paix. La chanson serait trop longue et il faudrait la recommencer. Mais maintenant qu'on en parle, on peut pas s'empêcher de crier mort aux vaches et à bas la sécurité. Quand elle n'est qu'au service de ce putain de progrès qui calcule notre bonheur en termes de productivité, en nous prenant pour les poulets qui ne font que ce qu'on leur dit de faire, de peur de rôtir en enfer. À la santé des poulets morts. À
ton corps dans Paris quelque part.
boulevards, les cafés déserts. Je pense à toi en terrasse, pas grand chose à faire. Ça ressemble à quoi? Une journée à perdre en été, avec dans la poche tes deux clés. J'attendrai le soir. À 14h l'obscurité, le tout début d'une histoire est meilleur qu'un vieux godard, un pop-corn climatisé. Les posters, les filles australiennes. Je pense à toi au fond d'un garage Citroën. Les sacs bananes au Sacré-Cœur, 10 000 caméscopes en chaleur. Ou bien on va au bord de l'eau, je pense à toi. Ou bien on dort dans un bureau. Ça ressemble à quoi? D'accoupler dans un sac plastique, Peter Falk et les Tinder Sticks. Hier soir, j'ai trouvé ça bien. Les posters, les filles australiennes. Je pense à toi au fond d'un garage Citroën.